En fait, cinq éléments présentés à un point avec, je sais pas, moi, on n'est plus capable de se souvenir, donc...
Donc, comme je vais les mettre ensemble, ben, ce qui va faire que les choses vont... Ces deux éléments-là vont pouvoir à différents moments qui vont se répondre. Et ça va se fondre l'un dans l'autre, donc ça va donner comme un seul élément.
D'ailleurs, il y a un théoricien qui donnait comme définition de la musique... L'harmonie, c'est l'art d'associer des choses qui, visiblement, n'étaient pas faites forcément pour être associées.
Pour parler du son, on ne peut pas entendre, il n'existe pas, à ma connaissance, dans la nature, très généralement pur,
polyphonique.
On entend tout son est la somme d'une composition de son.
Parce qu'en fait, il y en a toujours de la polyphonie.
Oui, ben, la radio contrapuntique, on peut en parler en ceci que...
C'est quand l'écrit crée de la polyphonie.
À partir du moment où on met deux éléments...
On pourrait dire ça.
Divergents.
Alors, ça sort un peu de la définition...
complémentaire.
Qui dit que le contrepoint, c'est l'inverse de l'harmonie.
Et qu'on est mis sur l'ajout d'un troisième sens,
quand on commence à apprendre le contrepoint,
voix,
on apprend à
quelque
faire...
Quelque chose qui se générerait par l'addition de ces deux voix, on peut parler de contrepoint.
Les notes... Ensemble.
Parce qu'en fait, le contrepoint, c'est rien d'autre que ça, d'une certaine façon. C'est, à partir d'un matériel réduit, générer des choses qui réapparaissent sous d'autres formes jusqu'à épuisement total du matériau.
Parfois, quand je superpose des choses, c'est que j'ai envie d'insister sur des éléments, mais il y a une construction qui précède ça. Comme c'est une écriture, ben, il va y avoir, d'une certaine façon, plusieurs voix qui vont être actives à différents moments.
L'idée
d'un
contrepoint,
ce n'est
pas au sens musical du terme, c'est au sens conceptuel du terme.
Donc, cette idée de jouer à plusieurs...
Éléments parallèles qui évoluent, par exemple.
Plusieurs textes en même temps, ça s'est fait dans les années...
ce que tu dis, chevauchement.
C'est vieux qu'un notaire. Et donc, là, on s'est mis à écrire.
Je peux parler d'une écriture à plusieurs voix.
Une centaine de voix.
Et parfois, les plusieurs voix, ça peut être la voix comme telle.
Au départ, tu avais des. Faudrait que tu regardes. Donc, la musique grégorienne, c'est une musique.
Musicaux, mais produits par des instruments.
Un problème au niveau de l'Église.
Et puis,
chacun de ces éléments
sont mis à faire de la musique pop.
C'est qu'un compositeur, en fait, un artiste.
On a appelé les trouvères ou les troubadours, eux autres qui faisaient de la musique.
En particulier du 15e et du 16e. Ne pouvaient pas se revendiquer comme étant un créateur. Parce que. Il n'y a pas de hiérarchie entre les voix, c'est-à-dire la voix du haut n'est pas plus importante que la voix du milieu. Et puis
il y avait
le
créateur,
bas, Dieu, et les créatures.
On ne va pas
une créature
soigner plus,
n'était pas censé prendre la place
du créateur,
qu'elle est en haut,
même si c'est
en
bas,
plus petite échelle,
celles qui ont l'air camouflées au milieu.
Donc
alors
en fait,
que
les,
dans la musique,
ces créatures qui
à partir de l'époque
de la polyphonie, baroque,
on va dire pour Chamaléonin et Pérotin, par exemple,
et ben,
il y a des voix
d'écrire, quand c'est écrit, aussi,
d'une importance considérable, ça
va faire, par exemple, une petite envolée. Alors, on imagine un orchestre symphonique extrêmement puissant, avec des cordes, des contrebasses, des cuivres.
De toutes les pièces de cette polyphonie. Donc, en fait, il partait d'un chant.
Et là, tout
de suite,
le trompettiste, hop, il
doit être. Comme étant d'inspiration divine, c'est le chant grégorien.
Et en fait, ça demande une force pour s'extraire du groupe qui est hyper forte.
Je sais pas, je prenne le Veni Creator. Eh ben,
comment on fait
mélodie,
pour s'extraire aussi
d'un
son ambiant,
par exemple,
et donc pouvoir placer, placer un chant, placer une
et puis
un signal en dehors du groupe. Ça sort un petit peu peut-être de la question, mais cette idée de comment on se compare, comment on reste dans un environnement, et puis en même temps, on va produire son propre signal, et donc on est obligé de s'extraire, et c'est extrêmement difficile de s'extraire de cette masse sonore ambiante.
Alors en fait, il y en a qui vont faire la partie qu'on appelait la partie de ténor.
Mais c'est le besoin, que l'humain a, parce que l'humain est un être grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de la société pour être.
Ténor, c'est celui qui tient. C'est celui qui tient la partie principale.
Tu fais un cercle sur un papier blanc, là?
C'est pas un registre vocal, encore.
Tu traces un cercle, tu traces deux choses dans un geste. Tu traces l'individu puis son environnement.
Ça devient plus tard un registre vocal, mais c'est avant tout un rôle dans la polyphonie.
C'est ce lien-là, en fait, entre l'environnement qui nous constitue. Nous sommes l'environnement et l'environnement, c'est nous. Fait qu'en même temps, les deux se co-construisent.
dans la nature, une espèce, les sons va sont émettre de manière quasi orchestrale. En fait, on sait très bien depuis un moment déjà qu'à un certain moment de la journée, le paysage sonore est en fait très organisé avec, avec d'autres certains types de layers et que notamment quand on s'intéresse aux questions de base.
En fait, quand dans les livres un petit peu ou même dans le discours un peu de base qu'on
c'est-à-dire qu'il prend une certaine latitude avec les techniques.
Là, j'ai entendu en haut, quand on dit que le contrepoint et l'harmonie,
et puis, ce sont les contraires,
gauche, c'est un accompagnement, deux approches de la musique qui sont contraires. Quelqu'un au piano qui faisait l'accompagnement à la main gauche, et puis un haut-bois qui
d'autres fois, moi, qui ai voulu faire
peut-être qu'on ferait mieux de dire,
comme on fait avec les gars,
c'est clair que c'est quand même pas...
Goldberg.
C'est pas contrapuntique. La démarche contrapuntique, polyphoniste...
L'harmonie est par bloc.
Différente de la démarche qui consiste à faire de la mélodie accompagnée. Un accord... Encore un accord.
Mais quand il est arrivé à faire The Idea of North, puis qu'il a commencé à explorer cette idée de contrepoint, ça a été un peu par hasard.
Mais les différentes voix qui constituent les accords, enfin,
on
ça,
lui avait dit, bon, ça. Écoute, on veut ce truc.
Je ne pourrais pas dire qu'elles n'ont pas de logique.
Le nord et tout ça.
De
on te laisse carte blanche, en fait.
Mais en tout cas, il est très secondaire.
Mais il y avait 70 ou 75 minutes. Il cherche un matériel alors que l'émission s'est rendue le potentiel expressif de la radio. Parce que c'est ce qui lui reproche, au fond. Et c'est là que l'idée lui est venue. De ne pas être assez expressif, de ne pas aller plus loin que les moyens projetés. Mais lui, c'est très simple de faire. Mais je vais vous dire, parce qu'on s'en rend compte, on voit que la radio, il a commencé à mettre, par exemple, des voix l'un par-dessus l'autre. À partir de là, on tombe presque dans des formes musicales. Puis la tentation est grande pour un musicien, évidemment, d'essayer de les appliquer.
Là, je pense que ça dépend vraiment de l'intention. Il y a des gens qui vont mélanger des sons pour fabriquer plus de réel.
Pour en faire un.
Tu veux parce qu'on faire comprend en sorte que les gens soient transportés
la série des harmonies.
Village,
un son.
À un moment
et quand, dans la nature, un son ne vient jamais seul.
En métissant des choses, puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'on pouvait aller assez loin dans ce métissage.
Toujours,
et sauf que, bah,
peindre, au point de faire en sorte que la réalité et la fiction ne fassent plus qu'un.
Du village, de la place du village, et bien peut-être que c'est un peu plus...
Il y avait d'autres gens qui l'avaient fait auparavant.
Crédible et immédiat, enfin rapide, en tout cas, si tu as la cloche du village qui va sonner.
Dans les années 20,
et du coup, peut-être que tu vas aller attendre que la cloche sonne 20 minutes plus tard, mais la mettre dans ta petite séquence de 1 minute, par exemple. Quoi. Et là, tu triches un petit peu, mais en même temps, c'est pour que ce soit plus réel, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, même chose pour Orson Welles en 1939.
Parce que c'est juste, tu vas superposer deux moments, tu vas faire une espèce de pli dans le temps.
C'est une question purement physique.
Donc, ça prouve que la radio, finalement, est très crédible.
Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as inventé
une
réalité?
Un orchestre,
non, en fait, tu n'as fait que la renforcer et la révéler, en fait. Tu l'as simplement déplacée, en fait. Tu vois ce que je veux
nous,
dire?
Nous, musiciens, on est capable d'entendre.
Moi, je pense que le mensonge et comme toute forme de fiction, en fait, sert justement à... sert souvent une autre
parce
forme
qu'avec
de vérité.
Un montage, si jamais, on peut tout faire.
Aussi bizarre que la vérité qui existe.
On peut faire dire ce qu'on veut, presque.
Alors, c'est cette histoire à New York, cette diffusion un dimanche soir, je crois, à New York. Énormément de public. Je ne sais plus en quelle année. Je ne sais plus quelle année, tu pourras vérifier. Donc, et la radio est un média de masse. Tout le monde est là. Et comme la radio qui commence à être envahie par ces extraterrestres, c'est une chose qui est assez nouvelle dans la vie des gens. C'est assez nouveau.
Une pièce sonore créée par un orchestre pour un seul auditeur.
Et la façon dont c'est présenté, on associe ça à d'autres formes, qui sont comme des nouvelles, en fait. Donc, dans une grande partie des personnes ne croient pas que c'est une fiction, mais que c'est la réalité. Qui génère les gens qui sont dans la rue, il y en a qui sont par la fenêtre. Ça, c'est une réaction, je ne parlerai peut-être pas de visibilité, mais d'une certaine façon, c'est que tu as réussi dans l'individualité de chacun à créer un mouvement de masse, ce qui est assez fort, en fait.
C'est pas pareil de jouer tout seul que devant un auditoire.
Et ça, c'est de moins en moins vrai, mais moi, j'adore ça. De dire que c'est un rendez-vous,
ça, c'est
en fait. Dans l'ambiguïté, moi, je devais faire la radio de la façon dont, avant l'arrivée de l'oratoire, c'est de réécouter des shows.
C'est
alors,
cette idée
si
de médium
de masse, je vais aller à quelques années.
Un rendez-vous, et la radio,
donc,
tant qu'à télé, l'a été.
Dans la pratique d'aujourd'hui,
la famille,
les gens qui écoutent la radio vont l'écouter en même temps, la radio en lieu différent. puis souvent pas être en contact les uns avec les autres. Mais c'est la raison, ça ne sert à rien. À moins d'être au cinéma, à moins d'être au cinéma. Et le curieux, ça a été, il y a commencé à voir, il n'accepte pas directement, mais c'est extrêmement réverbéré. La cathédrale est haute, on est enveloppé,
la capacité qu'on a de pouvoir entendre. Si tu es, par exemple, dans un cocktail, dans la cathédrale, tu l'entends, tu entends une voix, tu sens qu'il y a quelqu'un qui parle de toi,
et la voix est au-dessus de toi, elle est partout. Se faire balader, et
en plus, ça,
c'est Dieu qui te parle, c'est pas personne d'autre. Ça peut pas être un chien par l'aise, c'est cette faculté-là.
Et bien, en balance de...
C'est ça que j'ai envie de te dire.
Alors, je sais pas si c'est
vrai. Et en même temps,
comprendre ce que la personne dit, malgré
alors, c'est
le
fait que c'est un jeu qui tend dans l'oreille. En fait, ça, c'est OK.
Mais il y a aussi cette idée,
ce que l'on nous projette ailleurs, quand tu fais de la polyphonie dans ta tête, à savoir ce que
ça peut nous amener dans un autre espace, pour ça, dans un autre espace.
Pour moi,
c'est beaucoup plus fort si on écoute la radio, on ne voit rien.
Parce que ce qui nous manque, ce à quoi ils s'attendent,
je dirais, la nuit,
c'est à une écoute active.
Il y a la contamination.
Oui, l'erreur psychogéographique.
Il faut oublier qu'on est très,
tout en ayant un cœur ultra serré, pris,
donc avec le sens, c'est la même chose.
Donc, toutes les sources sonores pour être la vie
de faire entendre ce qui sort de ce qu'on connaît.
Et une pièce avec des
trucs importants.
Et donc, on imagine qu'il y en a plusieurs à la
tête.
Si t'es pas en mouvement, tu ne sens rien.
Il y a beaucoup de...
Ça fait des traces de tous les sens.
De toute façon, on roule tout le temps.
Et ça, c'est pas mal.
Ah oui,
ça,
c'est pas mal.
Radio,
c'est
pas mal.
Pour deux raisons.
Moi, je crois que c'est ça.
Il y a un autre langage, en fait.
Mais aussi parce que ça te permet de voir, ça te permet de voir plus large que 5%.
Mais il s'en éloigne. Pas très rapidement, mais il s'en éloigne. Comme tout praticien, créateur radiophonique, ne pas répéter...
La clarté de ta vision, je donne ça comme exemple, là, c'est 5% de la vision.
Trop souvent les mêmes choses.
Faire cohabiter des choses qui ont l'air différentes.
À un moment donné, je dis, j'ai vu ce qu'il y avait derrière cette technique, ce qu'elle permettait, je passe à autre chose.
C'est pour ça que ton œil bouge tout le temps, sinon on verrait toujours tout flou.
C'est ça, c'est quelqu'un qui reconstruit.
C'est pour ça qu'on voit le côté, par exemple, il est plus flou que
c'est
si
quelqu'un
je le
qui
regarde.
Prend son rôle
si
d'interprète
je mets les yeux directement dessus. Donc, si on reprend l'exemple, ton œil voit une image et après 5 secondes, tu es aveugle. Parce que si tu étais toujours innervé avec
si
l'ensemble
toujours,
des stimuli
habitués
générés par l'environnement, tu deviendrais fou.
Chez Gould, pour lui, jouer, c'est commencer. C'est commencer quelque chose.
Parce que sinon, tu serais toujours... C'est le principe du réfrigérateur.
Arriver en concert, jouer...
Tu l'entends quand il arrête de fonctionner.
Je pense qu'il avait le trac.
Parce que pendant qu'il s'allume, comme là, on est en train de discuter, s'il y avait un réfrigérateur qui se mettait en marche, là, tu ferais bouge, là, on l'entendrait. Continuer à jaser, puis au bout de quelques minutes, on ne l'entendrait plus. On l'entendrait quand il arrêterait de fonctionner.
Un peu comme ta grand-mère qui radote, là. Tu finis par arrêter de l'écouter, alors qu'en fait, il y aurait des choses à entendre différentes, quoi. Et j'aime bien ça, c'est de la surprise, c'est de l'accident. Et voilà, pour moi, le jeu, c'est aussi voilà, exactement ça, créer de la rencontre entre des choses qui ne seraient pas forcément rencontrées. Et laisser à désirer, c'est pas, tu vois, l'éloge du « on fait les choses n'importe comment », etc. C'est l'inverse, en fait.
Il y a
de
l'absence, il y a du manque, il y a de la carence.
Pour mais faire en sorte qu'il manque plein de choses, de créer du manque, et ce manque-là, elle laisse à désirer, il va aller le combler, le remplir, y mettre sa propre présence.
Il faut que tu sois présent à la chose.
Et du coup, la grande vie sort encore, mais il y a quelque chose de très juste pour moi, quelque chose comme ça.
En théâtre, je donne comme exemple, oui, l'acteur, il faut qu'il soit très présent à son personnage, qu'il devienne son personnage, donc qu'il devienne crédible à nos yeux. Mais nous, il faut que nous soyons à l'aise dans notre rôle de spectateur. Donc, on est scénarisé autant que l'acteur. Mais si t'as mal au ventre un soir, l'acteur a beau être hyper présent, je veux dire, pour toi, il sera pas présent.
Et en même temps, c'est ce plaisir-là que tu peux avoir à manipuler, en fait.
Parce que je fais une construction.
Tu te regardes.
Et il y croit.
Quand tu regardes un film, tu te regardes. Quand tu touches la table, tu te touches. Quand tu écoutes, tu t'écoutes.
De toute façon, c'est quelqu'un qui est un ascèse.
On est des systèmes fermés.
C'est quelqu'un qui vit comme d'une façon isolée du monde, en retrait.
Et ouvert, parce qu'on admet l'extérieur, sauf que la personnalité, l'identification de l'extérieur
qui est construit.
C'est toi qui la donne, c'est toi qui la construis.
Sa trilogie de la solitude, c'est pas pour rien qu'il a fait, qu'il commence par ça, d'ailleurs.
Et c'est ça qui me parle, finalement. L'idée de... La radio, pour moi, c'est quelque chose que j'ai près de l'oreille, en fait.
Il y a un bouquin qui s'appelle « Histoire de la modernité sonore » de Jonathan Stern.
Qui est assez trapu, mais
et qui raconte que
donc,
l'histoire de la création
des contextes d'écoute
et surtout
que je vais
des écoutes de casse remonte en fait à la professionnalisation de la médecine. En fait, il raconte que au moment où la médecine a été professionnalisée,
en écoutant une voix, par exemple, c'est parce que
mais en gros, quand les premiers stéthoscopes ont été introduits, c'était une mise à distance du patient par le médecin.
Parce qu'on m'amène aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Je raconte
des thèmes qui le rejoignent profondément.
Et donc, avec
que
ce geste
pas personnellement,
de,
parce que
je n'arrive pas le monde, le changement
personnel,
donc, mais c'est ce rapport-là aussi, comme dans l'intime, dans mon activité, où il n'y a pas de témoins, ou très peu de témoins.
Là où avant, l'écoute se faisait directement de l'oreille posée sur le torse du patient.
Chaque être humain est singulier. Tes sens sont pas mes sens. C'est similaire et quelque part, on s'adresse à des singularités.
Mais ce sera juste un autre point de vue sur la situation, en fait.
C'est le fait qu'ils
vont inventer leur propre monde
à partir
de ça.
L'envers. C'est parce que t'as le corps que t'as,
moi,
que tu vois
le
monde que tu vois.
Aussi, c'est que la radio peut mourir.
On ne pourra pas en savoir, mais on est là, en fait. Comment est-ce qu'elle va
se faire?
Il n'y a pas un monde absolu. Le monde du chien n'est pas ton monde. Tu comprends?
À la Renaissance, on place l'homme au centre.
Il y a quelque chose qui se produit dans
la perception du monde.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de la physiologie de l'oreille interne, mais effectivement, il y a cette cochlée avec tous ces cils qui sont répartis.
Pour moi, c'est
ce
qui est plus près de la perception auditive.
Du point de vue phénoménologique,
c'est une façon de m'ouvrir au monde, de me connecter au monde, en fait.
C'est des cils qui sont...
Parfois, dans certains édifices, on se rend compte que quand on chante certaines mélodies, de l'acoustique naturelle du lieu, des accords.
À notre être biologique,
en fait, avec le
c'est pour
reste
ça que notre monde est tel que nous le pensons.
Les sons, qui fait que les sons se propagent grâce à ces deux oreilles. On peut se localiser les sons dans l'espace.
Je te mets aussi à ta place, je ne suis pas simplement en train de subir ce qu'on t'impose, mais comment est-ce qu'on fait pour réinvestir en fait
sensiblement, différemment, pareil.
Ce territoire de l'écoute comme un territoire d'action, en fait, vraiment, quoi. On dormit par rapport à une certaine époque où, effectivement, on savait que c'était vital de pouvoir écouter.
Alors, on parle des sons des enfants, par exemple, auxquels on pourrait être particulièrement sensible. Alors, bon, il y a plein de débats là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que notre oreille est faite pour être sensible à certaines plages de fréquence. Très bien, au plage de la parole.
Et les sons d'alerte, des choses comme ça, c'est ce qui nous permet d'éviter des catastrophes.
Est-ce que le cerveau, il est polyphonique?
Non, il est séquentiel.
Donc je parlais de Twister, là, l'espèce de gros ouragan.
Il ne fonctionne pas en parallèle, il fonctionne en série.
Donc un vrai bon gros blockbuster. Pourquoi est-ce qu'on va aller mélanger des sons?
Très rapidement.
Avant tout, c'est pour provoquer un effet sur l'audience, en fait. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est qu'ils paniquent, un peu en alerte,
jeune
qui sent qu'il y a une urgence, est programmée. Il faut qu'ils aient agir à un bébé
il
qui pleure, utiliser ces matériaux-là de manière quasiment subliminale.
Le mot auditeur,
en cache,
vient de la même racine étymologique à audirer,
quand même,
obéir,
en fait. Il y a un bébé qui pleure, soit toujours là, en fait, de dire.
Il ne l'est pas vraiment.
Ah, il y a quelque chose à faire, je ne sais pas exactement pourquoi. Ça passe par des effets.
Il y a
l'immunitaire aussi qui joue beaucoup sur ces questions-là.
Après
c'est pas pour rien qu'on mette des tambours. C'est un peu un message caché, en fait. Et le son étant par définition invisible, en fait, tu peux manipuler énormément.
Il y a un intérêt direct au fait de pouvoir surveiller, être très sensible aux sirènes. Et c'est qu'il y a un balayage des fréquences qui fait qu'on est quelque part codé.
Ouais, c'est ça. Il y a effectivement des sons qui sont inscrits en nous et qui sont déjà encodés, on va dire, à l'intérieur de nous, qu'on porte.
C'est génétique, c'est l'épigénétisme, en fait. C'est-à-dire que dans tes gènes, dans l'ADN, il y a des gènes qui peuvent s'exprimer dans ton rapport à l'environnement.
C'est-à-dire qu'on est dans un environnement culturel et qu'on va avoir accès à un certain nombre de sons qui vont construire notre carte
Mongolie,
sonore.
En Mongolie ou même chez les Inuits, tu lui présentes une image de serpent puis ils savent de quoi il s'agit pourtant. Il n'y a pas de serpent, là.
Mais on a surtout, c'est que une mémoire auditive. En fait, on a un passé.
Un dictionnaire.
Alors en plus, on hérite en permanence. Un réflexe. Si je n'ai pas fait de vide de la main dans les 20 premières années de ma vie, bah, je serais incapable d'entendre même, rien que d'entendre la différence entre certains tons. Oui. Oui. On entend vraiment avec notre cerveau. Hein. Et donc, en fait, à partir de là, on peut se dire qu'on est en permanence une superposition ou une comparaison de sons. C'est-à-dire que tout ce qu'on va entendre, on va le comparer à ce qu'on connaît déjà.
Tout ce qu'on est, on est la somme de notre propre historique de vie.
Qui va advenir. On sait que si une voiture va arriver, on sait quel type de son ça peut faire en consultant notre propre catalogue de sons passés.
Quand je les réécoute, renvoie...
Ça tellement lié...
à l'émotion du moment. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je trouve que le son a la capacité de ramener en mémoire presque l'événement au moment où il a été vécu, en fait.
Et ce qui fait qu'à chaque endroit de l'espace et du temps...
Tu as toujours une cohabitation de différents espaces.
Ça peut être une composition unique.
Du point de vue purement de l'espace, tu prends un objet, tu l'amènes à un autre
endroit sur la table. Donc le temps de l'écoute est de moins en moins synchrone avec le moment de
projection. Plusieurs espaces mentaux en
un temps.
Tu vas aller prendre un bout d'une situation que tu as vécue dans la journée, qui va se mélanger avec un truc que tu as vécu il y a 10 ans.
Et donc, ça crée un nouvel espace mental.
Parce qu'il s'est développé, parce qu'il s'est déplacé.
Tu vois, vraiment, c'est comme quand tu rêves, en fait.
Il n'y a plus de mur.
C'est proche de la rêverie dont parle Bachelard. Comme quoi, la radio, c'est une forme de rêverie.
Et là, tu vois, t'es dans le passé, le présent, le futur.
Il y a plusieurs temps dans une composition, en fait. On n'est pas dans le temps de la composition, ni dans l'espace de composition, juste parce que t'es pas dans le même lieu. Je pense qu'on est toujours dans un autre espace. On n'est plus dans l'espace où la chose s'est déroulée. Et tu l'écoutes chez toi ou tu l'écoutes en marchant.
Ça ouvre d'autres horizons.
Un horizon, tu ne pourras jamais l'atteindre, par définition. Mais par contre, c'est toujours là.
Si tu mixes des choses ensemble, dans un lieu, donc tu as toujours la cohabitation, des choses qui n'ont rien à voir, mais de créer ce monde imaginaire, en fait, de fabriquer un nouveau lieu, un espace qui n'existe plus.
Dépasser l'entendement.
Qui n'existe pas dans une réalité.
Un peu improbable. Là, genre.
Parce que voilà, le...
Mais qui devient vrai parce que tu la donnes à entendre qu'elle est logique.
Le son, il veut toujours, pour moi, activer une notion d'émergence. Pour ça, elle est hyper intéressante. C'est l'idée que le tout n'est pas la somme de chaque unité.
C'est ce qui est inexprimé dans l'expression.
C'est pas parce qu'on prend chaque unité séparément qu'on peut comprendre, qu'on peut retrouver le tout.
Ouvre vers autre chose.
Mais dans tous les cas, peu importe qui, il y a toujours au moins... deux choses mises ensemble l'une contre l'autre pour créer une tension.
Quand on parle de,
une façon de
des intervalles comme
de
ça,
musique, on parle de mécanique
de
ondulatoire.
Qui sont un peu plus problématiques.
Le son élémentaire, c'est...
Peut-être du sinus qui
puis se même en mécanique quantique, en fait, l'idée de la vibration, de la physique comme telle, c'est un ensemble de vibrations, c'est un ensemble on parle de la théorie...
Avec laquelle on aime beaucoup jouer depuis une dizaine d'années.
Que toutes les fréquences. En fait,
c'est pas très conforme
de notre incapable de faire, un instrument ne peut pas le faire. C'est un son artificiel.
Einstein a ramené la vitesse. La vitesse donne naissance au temps.
Combinaison.
Prendre certaines précautions.
Si on prend un Big Bang, si on prend l'explosion du départ, en fait, ça génère des particules qui sont expulsées, si tu veux. Puis ça s'expulse sans
quand
fin.
On analyse des sons,
ça, les gens adoraient ça.
Dans un monde de vide.
Je ne sais pas si on invente un monde vraiment ou si on révèle un possible, en fait.
Je fais en même temps qu'on génère la gravité. La gravité vient du fait qu'on bouge.
Je vais proposer un cadre mathématique.
C'est
ça qu'on
contient, c'est la gravité.
Pour découper tout signal,
mais en fait, on fabrique aussi des brèches,
donc,
simplement.
Donc, à partir de ces sons complexes,
cosmiques,
comment retrouver la somme...
Parce que chaque corps possède déjà sa propre gravité, mais dans l'espace...
Faire des clins parallèles, c'est rien d'autre que d'amplifier un tout petit peu ce qui se passe dans la nature, comme si on faisait ça en quinte. Alors ça, c'est des choses qu'on pensait depuis très longtemps, les pythagoriciens avaient mis en évidence les liens qu'il y avait entre les intervalles musicaux et rapport à l'acoustique, les données physiques.
Très large, c'est comme des rubans de gravité.
Et mathématiques, des vibrations
qui se déplacent.
Sous une patte de la chaise, il y avait une roulette, donc la chaise est en déséquilibre. En étant déséquilibre, quand on s'y assoit, ben on tente de rétablir l'équilibre.
C'est tout le lien de la matière versus le déplacement dans la mécanique ondulatoire. C'est une mécanique où les particules sont appelées à se déplacer.
On voit Pythagore avec son monocorde, on se demande ce qu'il vient faire dans une cathédrale. Parce que, le monde chrétien a voulu s'asseoir sur le passé glorieux. En matière de philosophie et de...
Habituellement, quand on parle de son, on parle de molécules d'air qui vibrent de proche en proche jusqu'à atteindre ton oreille.
Et de science, de la Grèce antique.
Et ton oreille, en fait, c'est un outil de transduction.
Et les musiciens du Moyen-Âge, ça faisait partie de leur formation de connaître les propriétés
on est très loin
son,
de ce qu'on pense
vibrantes,
qu'est une fréquence ou une musique.
Des rapports de longueur
fond,
qu'il y avait entre les différentes
notes de musique.
Ce que
ta physionomie
sur une corde,
te
sur
permet
un tuyau sonore.
De ce qu'on appelle entendre.
Et tout ça pour dire...
Je reviens à mes logiques de survie, mais je pense que ça fait complètement partie de l'évolution de l'être humain d'arriver à
combiner. J'avais oublié, mais c'est vrai que cette chose-là qui choses... sera mise en parallèle avec autre chose, va faire apparaître une troisième chose.
Et le jour où le mec s'est dit, ah ben tiens, j'ai un caillou, tiens, j'ai une noix de coco,
moi, je
si
crois
je tape les deux ensemble...
Un et un ne font pas toujours deux.
Ah ben tiens, il y a des choses intéressantes dans la noix de coco. Donc tu vois, ce truc du choc, là, peut-être que ça va te permettre d'ouvrir précisément un espace comme tu ne l'aurais pas ouvert.
Moi, je pense que c'est la rencontre, en fait. C'est dans la rencontre que ça se crée. De créer une espèce de
par exemple dans
des choses qui déséquilibre en fait.
Le début c'est une route, donc on dit ok, on est quelque part. La deuxième chose, c'est un orgue d'église qui apparaît et un pasteur qui prêche. Donc on dit ok, c'est un peu comme s'il partait d'un grand d'un gros plan.
Et à certains endroits, si les sons se croisent
et
que
s'en allait un plan américain,
vibrations,
un plan de visage,
en quelque sorte entre en résonance, que donc c'est au bon endroit qui a le bon.
Ensuite, le pasteur commence à parler de matérialité, du monde.
Et ben ils peuvent s'annuler là, c'est-à-dire que là où il y a la bosse d'un son va arriver,
qu'on n'est pas si spirituel.
Le creux d'un son.
À ce moment-là, Glenn Gould fait entrer Janis Joplin qui chante.
Et donc, on va avoir.
Oh Lord, don't look at me, I want a color TV.
Et bien, ça va faire une espèce de somme qui va être zéro. S'il y a une onde qui est son maximum qui a plus 1 et l'autre qui a son minimum à moins 1, ben, si on somme les deux, ça fait plus 1, moins 1, ça fait 0.
C'est des sens qu'il
ajoute. Les sont
parce que le pasteur continue.
Marche,
la route continue à être là.
Un petit microphone qui est actif. Il capte des sons et il va l'inverser.
L'idée,
et donc l'oreille, elle reçoit la somme
des objets successifs sans les annoncer.
Et du son inversé.
On crée de la perception chez l'auditeur.
Du coup, ça fait comme une espèce d'annulation. Le son et son empreinte. Les deux sont... Et donc, les deux viennent s'annuler.
Et je pense que c'est ce qu'il a compris. Le studio, pour lui, devient une matrice générative. Un endroit où, enfin... il peut s'occuper à plein temps de création.
C'est l'humain, en fait, qui génère avec son appareil, avec
donc,
ses
par
appareils,
transduction,
avec ses passages d'un phénomène dans un autre phénomène.
Fantôme, c'est que exemple, là où on met du trou, c'est aussi de l'information pour l'oreille.
Biologique,
c'est-à-dire que pour l'oreille,
c'est lui qui génère la couleur. La couleur n'existait pas à l'extérieur.
Entendre quelque chose, c'est une information, mais ne pas entendre quelque chose, c'est aussi
parce
une information.
Qu'on a des,
donc si on a, par exemple, du bruit blanc qui
permet
toutes les fréquences en même temps,
qui permet de voir
qu'on fait un trou, et ben l'oreille, elle va l'entendre.
Et qui, au bout de la ligne, subjectivement, va réunir ce que tu reçois, ce que tu ressens, mais c'est totalement
c'est
la distorsion de tes capteurs.
C'était un article sérieux qui parlait de ces gens qui entendent des voix.
Ça peut être un support affectif.
Et en fait, il parlait
on reçoit
d'un
l'information
cas de...
qui est transduite, ce que ça produit de l'extérieur. Donc, dans ce résultat de transduction, ça
était
particulier.
Qui étaient les voix après un décès.
Et ce qu'on appelle, ce qu'on va nommer couleur,
voilà,
ce qu'on va nommer sensation.
Des défunts. Et en fait, une des explications...
Parce que je peux pas savoir, moi,
ça
si on dit ça, c'est
être
bleu.
L'oreille...
Avec toi, tu dis, ah oui, c'est bleu.
Donc il a été...
Mais dans le fond, je ne sais pas si tu vois vraiment ce que
vraiment empreinte dans le sens, voilà, il y a eu comme des sillons creusés.
C'est par convention qu'on se dit, ah tiens, c'est bleu.
Et Gould, c'est quelqu'un qui
gravé petit à petit dans notre cerveau. Et plus on l'entend, plus on est habitué, au point qu'on est capable de reconnaître des fois instantanément, au premier souffle même de quelqu'un, que c'est cette personne.
C'est ça qui parle plus à certains moments.
Et donc au décès, il n'y a plus ce signal acoustique. Il y a toujours plus cette stimulation. Un signal, c'est quelque chose qui est excité. Voilà, il faut imaginer que la vibration là, il y a un vide à certaines fréquences. Et bien si on entend des sons qui sont en roche,
alors lui, il voit, il participe à quelque chose.
Notre oreille est très bien capable de nous fonctionner.
Donc son univers, c'est, son, la voix c'est ce qu'on appelle l'umwelt, en fait.
Et donc, du coup, pour moi, c'est hyper important.
Dans les bas-fonds de mélanger les sources. De l'océan, il y a des êtres vivants qui vivent dans l'acide chlorhydrique.
L'oreille va s'accommoder, va les dire, okay, bah, je te tiens un peu ici, c'est toi, fréquent, je te mets là, et hop, je te recrée une voix.
De réussir à les faire cohabiter.
L'œil vivant s'adapte.
Je te donne l'illusion d'entendre la voix de cette personne qui...
Ça veut dire que c'est possible, en fait.
Qui n'est plus là.